بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شيخ فرير شيخ سور الإسلام نرمسي الله عز وجل كي نوز أكسبت سو سوا pour nous réunir un instant, pour apprendre notre dîn, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal attend de nous et quels sont les traits de caractère du croyant qui seront récompensés, reconnus, qui seront mis en avant le jour de Qiyam. C'est là l'objectif de l'étude du hadith des sept catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّ. Le jour, il n'y aura aucun endroit pour trouver un apaisement, pour avoir une tranquillité, pour avoir de l'ombre, si ce n'est l'ombre du Arsh d'Allah, l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. Si on s'est beaucoup, beaucoup attardé, beaucoup plus que d'habitude sur ce hadith, c'est que subhanallah, les ulama rahimahumullah, de manière générale, ont donné beaucoup de détails. Ils ont beaucoup commenté ce hadith et certains ont même rédigé des ouvrages, plus de 600-700 pages, uniquement pour commenter ce hadith, parce que c'est un hadith azim. Certains savants, certains muhadithins disent que c'est un des hadiths les plus parlants pour un mu'min, l'annoncer quelle sera la récompense de ceux qui mettent en pratique telle action le jour de Qiyam. Avant même de parler de Jannah, avant même de parler de paradis, avant même de parler de protection contre le feu de l'enfer, les adams, on donne une description de la première étape de l'au-delà, c'est Al-Mahshar, lorsque les gens seront ressuscités. Et c'est une étape, on a eu l'occasion de décrire un peu les textes qui parlent du Mahshar il y a quelques mois avant l'étude de ce hadith. On a vu que c'est une situation, c'est une étape qui est terrible, une des pires étapes, tellement terrible que certaines personnes demanderont même à Allah Azza wa Jal de les envoyer directement dans le Jahannam plutôt que de rester debout de cette situation. Et quelle sera la situation la plus compliquée, quel facteur rendra ce wukuf, cette situation-là encore plus difficile, c'est la présence du Shams, la présence du soleil au-dessus de la création. Et donc ce hadith nous décrit que dans ce chaos, dans cette situation chaotique, il y aura des personnes qui seront aminines, qui auront la tranquillité du cœur, mais également la tranquillité de l'esprit, et qui seront à l'abri de ces ahwal, à l'abri de ces difficultés. Ce seront les personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal, le jour de Qiyam. En relisant un petit peu les notes des différents muhaddithines, des différents ulama qui ont commenté ce hadith, disent que si on analyse l'ensemble, et personne ne peut analyser l'ensemble des hadiths que le prophète a transmis, mais si on va un peu plus loin que ce hadith, on se rend compte qu'il y a d'autres actions, il y a d'autres actions pour lesquelles il y a eu l'annonce de ces mêmes nouvelles. Comprenez que sans le moindre doute que les personnes qui seront selon du temps d'Allah Azza wa Jal, parmi ceux-là il y aura certainement les sahaba, il y aura les tabi'in, il y aura ces personnes qui avaient atteint ces degrés. Et ces sept catégories d'actions, ce sont là des actions qui sont accessibles. Ce sont là des actions qui ne nécessitent pas de sohba, par exemple. Il ne faut pas forcément avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour être sous l'ombre du trône d'Allah azza wa jalla le jour de Qiyamah. Il ne faut pas forcément être un savant ou connaître le Coran par cœur. C'est-à-dire des actions qui sont un peu plus complexes, un peu plus difficiles, qui demandent un investissement de temps complet. Non, des actions qui sont à la portée de chaque personne. Et c'est donc là une opportunité pour chaque croyant, chaque croyante, de trouver le contentement d'Allah, de remplir les conditions, de faire vivre les qualités de foi qui sont aimées par Allah. Comprenez bien que si Allah Azza wa Jal met en avant ces sept actions, ça veut bien dire que ça fait partie des actions les plus aimées par Allah Azza wa Jal. Et donc là, pour aller un peu plus vite, on avait traité avant donc les vacances cette quatrième catégorie de personnes qui sera sous l'ombre du temps d'Allah Azza wa Jal, le jour de Qiyamah. C'est un homme qui reçoit les avances d'une femme, une grande beauté et d'une haute lignée. Et comme on l'avait expliqué, les conditions du zina, les conditions de l'adultère sont réunies. Donc il n'y a aucune pression sociale, il n'y a rien qui l'empêche, son épouse n'est pas là, ou alors la personne n'est pas mariée, il n'y a personne à la société qui va porter un jugement. Bref, le péché est à portée de main. Mais malgré ça, la personne refuse. Et le refus ne trouve pas comme motif
l'apparence physique de la dame, aucunement. Bien au contraire, c'est une femme qui est séduisante. Et lui-même, c'est un jeune homme qui est séduisant. La seule chose qui fait que cette personne ne sombre pas dans les shahawat, dans les pulsions, c'est que la personne éprouve la crainte d'Allah Azza wa Jal. Et que dans son cœur, il y a le muraqabatullah, la pensée permanente d'Allah Azza wa Jal. Donc cette réaction, ce refus, est une réaction de iman. C'est une réaction de taqwa. On pourrait même dire que c'est une réaction de ihsan. Parce que lorsqu'il refuse, il est conscient qu'il est devant Allah, Allah le voit. Il est persuadé qu'Allah Rabbul Izzah à ce moment précis l'observe, donc il ne peut en aucun cas se mettre dans une situation où il va désobéir à Allah Azza wa Jal. On va essayer de compléter ce mardi, et peut-être le mardi dans deux semaines, Inch'Allah, cette catégorie. Alors, donc, on avait vu l'importance de contrôler son nafs. Hein, c'est les derniers points qu'on avait vus. L'importance de contrôler son nafs. L'importance également de prendre comme exemple les pieux prédécesseurs, que ce soit les sahaba, les tabi'in ou même les contemporains, différentes personnes à différentes époques et dans différents contextes, ça c'est important, dans différents contextes qui ont été exposés à des tentations. Pour qu'on réalise que les tentations, ce n'est pas uniquement à La Réunion, ce n'est pas uniquement qu'on est en France, ce n'est pas uniquement à notre époque. Même à l'époque des tabi'in, même dans des endroits proches de Makkah et Madina, il y a des récits, et on avait vu ces deux derniers cours, pas mal d'histoires, hein, c'est pas trop nos habitudes, mais on a vu des histoires de personnes qui témoignent comment ils ont été exposés à des propositions sataniques, hein, ce genre de propositions de zina, et ils ont trouvé la force spirituelle pour refuser. Des témoignages de croyants, mais également de croyantes, qui donc montrent que à toute époque il y a eu ces tentations de shaitan. La seule chose qui, le seul rempart qui empêche le croyant, la croyante de tomber dans le péché, c'est al-iman billah. Il n'y a pas une époque qui est plus exposée que d'autres époques. Les hommes restent les hommes, les femmes restent les femmes, les faiblesses de l'être humain restent les faiblesses de l'être humain. Shaitan est aussi performant il y a 12, 13 siècles qu'à notre époque. Donc, on a des scénarios qui sont semblables, qui se ressemblent. Et donc, les réactions de foi doivent être les mêmes. Donc, on a vu ces personnes qui ont donné des explications. Qu'est-ce, à quoi ils ont pensé immédiatement lorsqu'ils étaient exposés aux zina? Comment ils ont pensé à Allah Azza wa Jal? Il y avait une des histoires, une des citations qui était, une des anecdotes qui était vraiment plaisante, où cette personne a demandé à cette jeune femme qui pourtant était d'une grande beauté, imagine que l'ange de la mort vient reprendre ton âme maintenant. Est-ce que tu aurais souhaité qu'on ait accompli, astaghfirullah, l'adultère, le zina, et que l'ange de la mort reprend ton âme? Elle a dit jamais de la vie. Donc, il a poussé cette personne vers un raisonnement afin qu'elle réalise que, subhanallah, on a un retour auprès d'Allah. Et ce retour auprès d'Allah passe par différentes étapes. Naz'ir ruh. Il a cité étape par étape. Imagine qu'on te pose dans ton qabr. Est-ce que tu aurais été satisfaite qu'on ait accompli l'adultère avant qu'on te pose de la tombe? Et là aussi, il y a une réaction, il dit jamais de la vie. Personne ne souhaite terminer sa vie avec un tel péché. Jusqu'à ce que cette dame réalise que cette tentation, ces pulsions, vraiment, si ils obéissent ces pulsions, ils se condamnent spirituellement et ils risquent d'avoir énormément de difficultés, tant dans la tombe, au moment de reprendre l'âme, le ruh et dans l'au-delà. Ce qui nous reste à voir, Inch'Allah, ce soir et le mardi d'ensuite, c'est très clairement, quels sont les conseils, quelles sont les directives que notre dîne donne aux croyants et à la croyante pour résister à ce péché. On dit que c'est un des péchés les plus difficiles à gérer, c'est une des tentations, c'est une des plus grandes faiblesses de l'homme. Et encore une fois, on répète, lorsque le hadith stipule un homme qui refuse l'avance d'une femme, le mot homme, hein, on peut comprendre dans l'autre sens aussi. Une femme qui reçoit des avances d'un homme et qui refuse, c'est exactement la même récompense. Donc, sachant que c'est là une faiblesse de l'être humain, quels sont les conseils du Coran et les conseils de notre prophète alayhi salatu wassalam pour rester éloigné de ce péché? Premièrement, il faut réaliser, et ça on avait dit juste avant les vacances, que l'adultère, le zina, est un péché qui est haram dans toutes les adiyan samawiyya, dans toutes les religions qui ont été révélés par Allah Azza wa Jal. Et preuve que même chez les Banu Israël, c'était haram, l'histoire de ces trois personnes qui étaient dans la grotte. Donc cette personne met en avant le fait qu'il ait refusé le zina par crainte d'Allah, ce qui prouve bien que même chez les Banu Israël, ce péché, cette action était considérée comme mubiqat, comme étant un péché grave. Donc, on avait vu également que ce péché met en danger le iman, la foi. Ce péché met également en danger la famille, la cellule familiale. Parce que lorsque ce péché concerne une personne qui est mariée, que ce soit un homme marié ou une femme mariée, et qu'on découvre par la suite que ce péché a été accompli, dans la plupart des cas, cela aboutit à une fracture de la cellule familiale, un divorce. Et s'il y a des enfants, si ce couple a des enfants, ben c'est des situations très compliquées à gérer. Et également, ce sont parfois des familles hein, qui ne vont plus se parler, qui vont se quereller parce qu'il y a eu tel problème. Ce sont des personnes qui vont être touchées de leur honneur, des familles même qui vont être touchées dans le izza de leur honneur. Donc, c'est vraiment un péché qui est destructeur, tant sur le plan dunyaoui, sur le plan sentimental, sur le plan familial, mais également sur le plan spirituel. Maintenant, parlons d'une jeune fille qui a eu, Allah musta'an, cette faiblesse de foi et qui a accompli le zina, et que dans la communauté, les gens, ils savent que telle personne, telle fille de telle famille, ben, elle sortait, excusez-moi, avec tel garçon, il y a eu telle chose, ils sont restés ensemble combien de temps? Quand il s'agit d'une demande en mariage, ben, très souvent, c'est des personnes qui ont une certaine dignité et des valeurs spirituelles, ce sera là un frein de savoir que c'est une fille qui a déjà eu un passé, et un passé qui n'était pas dans le halal. Non, c'est vraiment quelque chose qui porte atteinte même à l'honneur de la personne. On a la sourate An-Nur, qui comprend pas mal de versets et pas mal de directives concernant les précautions à prendre pour rester vraiment éloigné de ce péché. Alors, premièrement, les muhaddithins disent que si on analyse le début de la sourate An-Nur et les derniers versets de la sourate Al-Mu'minun, on trouve commun un verset qui parle en même temps du tawhid et du shirk et qui met en avant, qui parle également de ce péché. Pour qu'on comprenne que un des péchés les plus graves concernant le droit d'Allah, fi haqqillah, c'est bien sûr le polythéisme, le shirk. Et un des péchés les plus graves concernant haqqul mujtama', concernant le droit des gens, et au-delà des droits des gens, notre devoir envers notre communauté, ben c'est ce péché, c'est le zina. Comme le prophète alayhi salatu wassalam avait rappelé un jeune qui avait demandé, vous connaissez l'histoire, l'autorisation d'accomplir le zina, le prophète m'a fait comprendre que personne n'accepte un tel péché quand ça concerne une sœur, quand ça concerne, astaghfirullah, sa propre maman, quand ça concerne sa fille, quand ça concerne sa nièce, et ainsi de suite. Pour que ce jeune homme réalise que lorsque j'assouvis mes passions à travers ce péché, je porte atteinte à l'honneur d'une famille. Et je blesse beaucoup de personnes sans que je ne m'en rende compte, afin que la personne réalise que c'est vraiment mauvais. Et donc, comme les savants disent, un des pires péchés qu'on peut faire à l'encontre d'une communauté, c'est le zina, l'adultère avec une fille, parce que là on porte atteinte à une famille. Alors, parmi les versets qu'il y a dans Surat An-Nur, il y a des versets qui sont tout à fait compréhensibles, et après on verra par la suite, soit aujourd'hui, soit la prochaine fois, qu'il y a parfois des directives qui peut paraître un peu inaccessible, on peut ne pas comprendre, et on expliquera pourquoi il y a des fois on a un peu de mal à comprendre ce genre de directive. Alors, parmi les messages qui sont très clairs, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit le Coran, Azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika, wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik, ila akhir al-aya, les termes utilisés dans ces premiers versets de la sourate An-Nur, ce sont des termes extrêmement durs. C'est-à-dire que celui qui a fait le zina, ben, qu'il se marie avec quelqu'un qui a fait le zina comme lui. Des termes qui sont très durs, afin que le croyant qui lit ces versets réalise que ce péché est d'une gravité extrême. Et que si les termes du verset de Surat An-Nur sont aussi durs, c'est pour qu'on réalise qu'en aucun cas, on ne peut se permettre d'approcher, c'est le terme, voilà, taqrabu, on ne peut se permettre d'approcher ce genre de péché. En commentaire, il y a un facile qui a fait un tafsir magnifique de ce verset. Elle dit, parce que la personne qui s'adonne à l'adultère, en fait, c'est quelqu'un qui ne respecte pas le droit de la femme. Et la seule chose qui l'intéresse, ce sera la relation charnelle, qui va se limiter à la contemplation du corps et le fait de profiter de ce corps, où il n'y aura aucun sentiment réel, et il n'y aura pas non plus d'engagement, et il n'y aura pas non plus de réel muhabba qui va s'installer, il n'y a pas de promesse de fidélité, il n'y a pas ce niya, cette intention de vivre ensemble toute la vie, de fonder un foyer, d'avoir des enfants, d'essayer de donner une bonne éducation à ses enfants pour qu'ils deviennent de pieux musulmans. Tout ça, ce sont les messages du zawaj, du nikah. Alors qu'à travers une relation comme le zina, l'adultère, il n'y a strictement rien si ce n'est profiter du corps d'une personne. Et donc ils assimilent ce genre de relation à une relation, astaghfirullah, comme des animaux hein, qui n'ont à la base pas de sentiments. Il dit que l'homme ne peut pas se rabaisser à aller vers une telle relation. Deuxième enseignement de la sourate An-Nur, lorsqu'Allah Azza wa Jal parle des personnes qui accusent sans preuve une femme d'avoir accompli l'adultère, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ de la sourate An-Nur, il y a là également une mise en garde extrêmement dure, extrêmement sévère à l'encontre des personnes qui osent porter atteinte à l'honneur d'une femme mariée en faisant courir hein, des rumeurs, des bruits que cette femme aurait accompli le zina. Ça c'est quelque chose de haram sans le moindre doute, et il y a même une punition spécifique qui est stipulée de le verser pour cette personne ou ces personnes qui portent de telles accusations. L'objectif c'est quoi? Là aussi c'est que le croyant réalise que accuser une personne du zina, c'est vraiment la pire des accusations. C'est pire que dire une personne a volé ou une personne a menti. C'est vraiment la pire des choses. C'est, il n'y a rien de plus déshonorant. Et donc, avant d'affirmer une telle chose, il faut vraiment avoir des preuves. Et si on n'a pas des preuves, ben c'est vraiment considéré comme un des péchés les plus détestables que d'accuser une femme d'avoir accompli. Et l'objectif, donc, comme on l'a dit, c'est de réaliser, c'est d'intégrer que ce péché, c'est vraiment quelque chose d'inacceptable. On ne peut même pas en parler. On ne peut même pas en parler si on n'a pas de preuves. On va un peu plus vite. Parmi les conseils que le Coran nous donne, là on est toujours à la sourate An-Nur, on est au verset 27, et là c'est le premier nasiha. Les deux premiers points, c'était des mises en garde à travers les termes de la sourate An-Nur, qui, je reconnais, aurait nécessité un peu plus de détails de le tafsir, mais on veut essayer d'aller plutôt vers les nasiha, vers les conseils. Et parmi les conseils que la sourate An-Nur nous donne, c'est ce fameux verset qui s'appelle le verset du isti'zan. Demander autorisation avant d'entrer dans une maison. Allah Azza wa Jalla dit le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dhalikum khayrun lakum la'allakum tadhakkarun. Le grand message à travers ce verset, c'est que lorsqu'on entre dans la maison d'une personne, on doit toujours cogner et demander l'autorisation. En aucun cas, une personne ne peut se permettre d'entrer chez quelqu'un sans l'autorisation. Parce que le regard d'un homme ne doit pas se poser sur une femme alors que, on pourrait dire que son satar n'est pas couvert, alors qu'elle n'a pas une tenue pudique. Tout ça, ça risque de créer des fitnas. Et là, ça met en avant un verset qu'on va voir, on va développer juste après, qui est le verset le plus important, l'importance de contrôler son regard. L'importance du fait de ne pas se mettre dans une situation où on risque de voir une femme, ou alors si c'est une femme, de voir un homme qui, le fait de voir cette personne, va créer un fitna dans le cœur. Parce que l'homme a cette faiblesse que lorsque il a été exposé à une situation où le cœur penche vers un homme ou une femme, à un moment donné, il y aura des waswasa de shaitan, il y aura l'insufflation du diable, et la personne ne finira pas, n'arrêtera pas de penser à ce qu'elle a vu, et parfois même, si cette vision n'était pas aussi extraordinaire, shaitan fera son travail, en essayant d'embellir et d'extrapoler ce qu'on aurait pu voir, jusqu'à ce que Mandeli va nous faire croire qu'on a vu vraiment quelqu'un d'exceptionnel, extraordinaire, et on va entrer dans un cercle vicieux, dans les deux sens du terme, dans un cercle vicieux où l'esprit sera perturbé et l'homme risque de pencher vers ce péché. Et donc, une des précautions que le Coran préconise, c'est de ne jamais entrer dans la maison d'une personne, surtout quand il y a des dames, sans l'autorisation. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de protéger l'honneur des dames, et c'est également le contrôle, l'assurance du contrôle du regard. Ça, c'est quand c'est nous qui entrons dans un endroit qui est fermé. Maintenant, le verset suivant, قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Et le verset également pour les dames, وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن إلى آخر الآية. On est toujours dans la sourate An-Nur, le verset 30-31. Là c'est quand on est dans le mujtama', quand on est à l'extérieur, quand on est ça peut être dans la rue, ça peut être dans une réception, ça peut être dans un magasin, fissouk, dans n'importe quel endroit, ouvert, où on n'a pas à demander l'autorisation pour entrer dans une maison, dans une pièce qui est fermée. Lorsqu'on est exposé à la société, Là, le Coran nous demande une action d'une grande simplicité, mais qui est vraiment le verrou contre les pièges de Shaitan et qui est vraiment le premier rempart contre les pièges de Shaitan, c'est de contrôler le regard, de baisser le regard. Et les Mufassirin disent que dans la plupart des versets où il y a un ordre ou un interdit, Allah Azza wa Jal cite Ya ayyuhalladhina amanu. Et lorsqu'on parle de mu'min, Allah Azza wa Jal ne précise pas les mu'mina, les croyants aussi. Et c'est rare qu'on a ce genre de verset où il y a un ordre pour les croyants, ensuite l'ordre est répété pour les croyantes. Qul lil mu'minina dit aux croyants, et juste après, wa qul lil mu'minati est dit aux croyantes, avec exactement les mêmes termes, juste que c'est mis au féminin, pour que les mu'mines et les mu'minas comprennent, que ce soit les messieurs, que les dames comprennent, que le fait de contrôler son regard, c'est une action essentielle pour ne pas tomber dans un péché, comme on a vu, qui est destructeur, qui met en péril le iman, mais qui peut mettre en péril l'honneur, également la famille. Ce qu'on appelle « raddul basar », le fait de contrôler son regard. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a décrit le regard comme étant « sam masmoum min siham iblis », comme étant une flèche empoisonnée parmi les flèches de Shaitan. Très souvent, lorsque le regard a perçu quelque chose qui va susciter un certain désir de le cœur, on pourrait dire que le cœur commence à s'emballer. Tout va démarrer du regard. Et là, comme on a dit, là il y aura la faiblesse de cette personne, et il y aura les mauvaises pensées, les insufflations de Shaitan qui vont s'emballer, ça va faire un mélange jusqu'à ce que la personne ne finisse plus qu'à penser à ça et uniquement à ça. Parfois même à être troublé dans ses prières, ne pas avoir la concentration de la salah, et penser, Wallah Musta'an, à Ufahisha carrément. Et tout va démarrer donc du basar, le fait qu'on n'a pas contrôlé, subhanallah, le regard. Et subhanallah, dans chaque ordre d'Allah Rabbul Izzah, et dans chaque conseil du prophète alayhi salatu wassalam, nous voyons que notre Rabb, notre Seigneur, connaît parfaitement le fonctionnement de l'être humain. Il connaît parfaitement le fonctionnement de l'être humain parce que c'est Allah Azza wa Jalla qui nous a créé. Allah connaît nos capacités. Allah Rabbul Izzah connaît la capacité de l'homme à demander pardon, à éprouver des remords pour un péché, à revenir vers lui avec sincérité. Ce sont là des qualités qui sont propres à chaque être humain et chacun est capable de le faire. Mais Allah Azza wa Jalla sait également comment est-ce qu'une personne peut chuter lorsqu'il s'agit des pulsions des passions. On n'a pas vu ces histoires dans ces programmes, mais combien de cas de personnes qui, mashallah, avaient atteint un degré de piété, un degré de pratique de la religion, et il y a eu ce qu'on appelle un coup de foudre, où le cœur est tombé pour une femme, et la personne était prête, Wallah Musta'an, à délaisser toutes les bonnes habitudes acquises, toutes les bonnes actions, pour obtenir les faveurs de cette femme. Si quelqu'un qui, mashallah, avait gardé sa barbe correctement, conformément à la sunna, cette personne est même prête à revoir cette sunna pour plaire à cette dame, pour faire la demande en mariage, la réalisation. Allah Musta'an. Ça, ça nous fait vraiment comprendre que notre Seigneur connaît mieux ce qui est bon pour nous, et Allah Azza wa Jal connaît exactement ce qui est néfaste, ce qui peut nous faire chuter. Ça peut être parfois des années et des années d'efforts, des années de mujahada, de sacrifice et de iltizam, des années de subhanallah, de rectitude, donc le fait de rester dans le droit chemin, et qui peuvent être fragilisées et parfois même tomber à cause d'un regard, à cause d'un cœur qui commence à pencher et qui commence à s'emballer. S'il y a bien là une faiblesse qui est propre à la race humaine, homme comme femme, c'est al-jins, tout ce qui est en rapport avec l'adultère, le zina, et tout va démarrer du regard. Celui qui arrive à contrôler ce regard, il ferme la porte définitivement à Iblis, à Shaitan. Et du coup, cette personne, Inch'Allah, se préserve du zina. Et cette personne va réellement respecter l'ordre d'Allah qui est « Wala taqarabu », ne vous approchez pas. Parce que la personne qui contrôle son regard, sans le moindre doute, cette personne n'ira pas parler à une femme étrangère, n'ira pas essayer de trouver un chemin pour parvenir à cette personne, même pour lui envoyer des messages ou autre chose. À partir du moment où on a contrôlé le regard, le cœur ne désire pas le haram, et c'est là le signe de notre iltizam, notre obéissance à Allah Azza wa Jal. Hada. Et lorsqu'on parle du contrôle du regard, et là c'est, on pourrait dire, c'est un tafsir un peu plus contemporain, le contrôle du regard, ce n'est pas uniquement face à des personnes réelles, mais également des personnes virtuelles. Le contrôle du regard de nos joies est aussi complexe dans les rues que devant son petit écran ou son grand écran ou son mini-écran, son portable. Donc, tant qu'on est... Allah Musta'an, si quelqu'un est éprouvé par la télé, s'il a du temps à perdre à regarder des trucs, ou si une personne est sur Internet, ou si une personne même sur son GSM, ben, tout ça s'appelle raddul basar. Tout ça s'appelle contrôle du regard. En aucun cas, on peut se donner bonne conscience en disant que dans la rue je ne regarde pas, mais là c'est des personnes virtuelles, hein, c'est pas des personnes, je risque pas de faire le zina. Alors vous savez, Shaitan il crée des connexions, des logiques, hein, il dit que, écoute, si on contrôle le regard, c'est parce que si je vois cette personne, je regarde, je l'admire, je risque d'avoir une envie et d'accomplir le zina. Là oui, le danger est réel. Mais lorsqu'il s'agit d'un écran, hein, quelqu'un regarde une vidéo concernant, je sais pas, une actrice qui habite en Amérique là-bas, en Australie, je sais pas dans quel pays, au Groenland, ben je vais pas faire le zina avec, donc il n'y a aucun risque de débordement. Du coup, le péché est moins grave. Abadan wallah. En aucun cas. Ne jamais se laisser tromper par ce genre de piège, de chien, parce que ça on entend aussi. Et donc le contrôle du regard, c'est même lorsqu'on lit un magazine, on regarde. Tout ça, ça s'appelle raddul basar. Faire en sorte que les yeux ne se posent jamais sur quelque chose que le croyant ou la croyante ne doit pas regarder. Les savants disent également que biqadri, hein, en fonction de ta capacité à contrôler ton regard, ben c'est là un dalil, c'est là une preuve de ce qu'on appelle al-istislam ou lillah, de ta soumission à Allah Azza wa Jal. Plus une personne arrive à contrôler son regard, c'est là une preuve probante, une preuve très claire que la personne est soumise à Allah Azza wa Jal. Alors qu'une personne qui ne se contrôle pas, c'est une preuve que dans son cœur, il n'y a pas la crainte d'Allah Azza wa Jal. Et cette personne n'a pas de son cœur le muraqabatullah, la pensée qui doit être permanente de notre cœur pour Allah Azza wa Jal. Parce qu'à partir du moment où on est prêt à regarder n'importe quoi, c'est qu'à ce moment précis, on a oublié qu'Allah nous voit. Et ça, c'est inacceptable. Jamais un croyant ne doit se déconnecter de cette pensée qu'Allah Rabbul Izzah me voit et m'observe et m'entend et sait ce qu'il y a dans mon cœur. Ça c'est la connexion permanente qu'on doit avoir avec Allah Azza wa Jal. Ce muraqabatullah, cette pensée permanente d'Allah Azza wa Jal. Donc quand une personne se laisse aller, na'oud billah, c'est une preuve qu'elle fait preuve de ghafla, d'insouciance. Et le mu'min ne peut pas se permettre d'être ghafil. La pire des choses serait que l'ange de la mort reprenne notre âme alors qu'on est dans l'insouciance. Imaginez quelqu'un en train de regarder ce qui est haram, il a un arrêt cardiaque, il meurt. C'est-à-dire, il meurt alors que sa dernière action, c'était ce haram, c'était ce péché. Ça, c'est ce qu'on appelle sous al-khatima. Et qu'Allah nous protège. Voilà. Également, les savants disent, dernier point concernant le... Enfin, pas dernier point, mais ce qu'on doit... On avait prévu d'expliquer concernant le contrôle du regard, dit que le croyant doit toujours demander protection à Allah Azza wa Jal contre le zina. Sachant que c'est un péché destructeur qui est grave, on doit demander protection. Il dit que, et l'effort, il y a, dans chaque chose, il y a le dua, ce qu'on demande à Allah Azza wa Jal, ensuite l'effort qu'on va faire. Maintenant, si je demande protection à Allah Azza wa Jal contre l'adultère, et que je contrôle mon regard, on va dire qu'on aura fait... on aura fait le doua auprès de notre Rabb, demander isti'adha, et on aura fait l'effort qui est dans notre capacité, et donc avec ça, on peut avoir, inshallah, une garantie que nous serons toujours protégés de ce péché. Hada. Puis en commentaire, celui qui a écrit ce livre donne des exemples. Il dit qu'il y a des fois où, dans certaines communautés, dans certains mouvements de pensée, on se dit que l'homme a besoin, hein, d'une certaine liberté, astaghfirullah, d'une certaine émancipation, et c'est exactement ce qu'on voit dans différentes sociétés. Sur le plan concernant sa sexualité, il y a besoin d'une certaine émancipation, il ne faut pas se priver, il ne faut pas se frustrer. Il dit que, subhanallah, on a affaire à des gens qui vont essayer de déterminer la psychologie de l'homme alors qu'ils n'ont strictement rien compris de la machine humaine. On n'a pas compris grand-chose concernant la santé, le fonctionnement, on va dire, physique de l'être humain. Maintenant, ce qui est plus abstrait, tout ce qui concerne la psychologie, subhanallah, on doit vraiment se fier aux ordres de notre Seigneur. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit « Wala taqrabu », les savants expliquent que « an-nahy », l'interdiction, les limites, c'est impératif concernant ce péché. Parce que si une personne n'a pas réalisé que concernant hein, les relations, il y a des choses qui sont haram et qu'on ne peut pas aller au-delà des limites du halal, ben, cette personne qui se dit que on va essayer d'aller vers, on va essayer de se persuader, de comprendre par nous-mêmes que c'est pas bon, c'est-à-dire qu'on voit dans différentes sociétés que lorsqu'il y a une certaine liberté, très souvent la liberté est finie par être synonyme de libertinage. Et c'est dans ce genre de société qu'on voit apparaître toutes les déviances sur le plan sexuel. C'est dans ces sociétés où il y a le plus de viols, dans ces sociétés où il y a, il faut faire attention à nos termes, une sexualité déviante qui n'est pas celle qui doit être, qui permet la procréation. Et même certains termes, c'est devenu des termes homophobes, on fait attention. Dans ces sociétés, on voit beaucoup de libertinage, hein, les couples wallahu sa'an, qui se trompent mutuellement, ou parfois même il y a des situations qui sont plus graves lorsqu'on parle d'échangisme où il y a l'accord du mari pour que la femme ait des... Wallahu sa'an, c'est des choses qui, à la fitra, l'inéité, l'homme normalement n'accepte pas. Le croyant, la croyante ne peut pas accepter. C'est lorsque on se dit qu'il y a une certaine liberté qui est tolérée dans ce genre, dans les relations, c'est là qu'on arrive au pire des situations et on arrive à une dérive totale où il n'y a plus de frein, où il n'y a plus de limite, et l'homme, de par sa faiblesse, a besoin d'une nahi, de l'interdiction concernant la sexualité. Obligatoire qu'il y ait un nahi la taqrabu. Et le terme est très fort, la taqrabu, ne vous approchez pas, pour que vraiment on fixe les limites, on comprend qu'il y a un interdit, et cet interdit, on ne peut en aucun cas le contourner. Et jusqu'à arriver à la pire des situations, ce sera à la fin des temps, où, à l'époque, un peu avant la venue de Dajjal, il y aura des personnes qui vont même s'adonner, Allah musta'an, à des relations en public, sans même se cacher, et on va dire que ça sera la pire des situations. Ce qui prouve bien que lorsqu'il y a une liberté, hein, dans ses pulsions, ça veut dire qu'il n'y a plus de din à la base. Lorsqu'on voit des personnes qui n'éprouvent plus de haya, qui n'éprouvent plus de pudeur, c'est qu'à la base, il n'y a même plus de din, il n'y a plus de dignité, il n'y a plus de izzah, il n'y a quasiment plus de iman en Allah Azza wa Jal. Alors que la personne qui fait de haya, de pudeur, qui contrôle son regard, qui fait en sorte de rester dans le droit chemin, tout ça, ce sont là des preuves de soumission à Allah Azza wa Jal. Donc, dans notre contrôle, hein, de soi concernant ce péché, c'est une preuve de présence de iman. Et la personne qui se laisse complètement aller, c'est une personne qui n'a pas vraiment iman. C'est une personne qui, en finalité, il sait qu'il y a Allah, mais qui ne croit pas suffisamment à Allah Azza wa Jal, parce que sa croyance en Allah ne l'aide pas à rester éloigné de ce genre de haram. On va s'arrêter à la fin, soit Inch'Allah. 32 minutes, on ne va pas faire trop long, on essaie de rester dans les 30 minutes. Donc là, on a vu quelques enseignements de la sourate An-Nur, et un des enseignements les plus importants qui doit être appliqué à toute époque, sans exception. En aucun cas, on ne peut cautionner les péchés en rapport avec le regard en se disant qu'on vit dans une société qui est comme ça, où il n'y a pas d'absolution. Dans la mesure du possible, fattakullaha mastata'atum, on doit faire tout ce qui est possible pour prouver la crainte d'Allah, pour contrôler son regard et en aucun cas se dire minimiser un péché. La pire des choses, c'est de changer le tashri'a, de dire que ça c'était valable à une certaine époque, maintenant c'est plus possible. Quand on entre dans ce jeu, quand on ouvre cette porte, on change le wahi et parfois même ça peut aller vers des kalimatul kufr, vers des paroles de kufr. On demande à Allah Azza wa Jalla de nous donner les qualités de iman, les qualités de foi pour, inshallah, contrôler notre regard, et qu'Allah Rabbul Izzah nous protège des wasawis de shaitan, et qu'Allah nous tient toujours éloignés, qu'Allah nous protège même des situations où on est exposé même à ce genre de tentation, ce genre de péché, et qu'Allah Rabbul Izzah nous accorde donc les qualités spirituelles pour être sous l'ombre de son trône le jour de Qiyama, inshallah. Le mardi, dans deux semaines, inshallah, on va compléter cette catégorie de personnes, et puis on va passer à une autre thématique, une personne qui s'isole, qui pense à Allah Azza wa Jal et qui a des larmes qui coulent de ses yeux par amour et par crainte d'Allah Azza wa Jal. Ma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.